Epic, grandir ensemble.
Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal, bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, Emmanuel Macron en visite aujourd'hui au Liban. Le pays vient d'élire un président et désigner un premier ministre après des mois de blocage. Le président français devrait évoquer avec son homologue Joseph Aoun la poursuite de la mise en place du cessez-le-feu signé fin novembre entre Israël et le Hezbollah libanais. Nous serons également au Cameroun dans ce journal. 2 ans jour pour jour après la disparition de Martinez Zogo, animateur de radio populaire, retrouvé mort quelques jours plus tard, son corps supplicié. Un procès se tient à Yaoundé, mais ses proches dénoncent les lenteurs de la procédure. Vous allez l'entendre. Et puis un géant du cinéma, un cinéaste américain qui a marqué le 7e art avec une œuvre culte et sans pareil. David Lynch est mort hier à l'âge de 78 ans. Emmanuel Macron arrivé ce matin à Beyrouth, au Liban, visite express de 12 heures qui coïncide avec celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, arrivé lui hier soir. Le président français doit rencontrer le président libanais, Joseph Aoun, élu il y a une semaine. Après 2 ans de vacances à ce poste, il sera notamment question de l'accord de trêve trouvé fin novembre entre le Hezbollah libanais et Israël. À Beyrouth, la correspondance de Paul Khalife.
Vaste programme au menu de la visite d'Emmanuel Macron au Liban. La première d'un chef d'État étranger depuis l'élection de Joseph Aoun à la présidence le 9 janvier et la désignation de Nawaf Salam au poste de Premier ministre le 13 janvier. En tête des priorités, la consolidation de la fragile trêve qui a mis fin le 27 novembre à la guerre entre le Hezbollah et Israël. Ce cessez-le-feu est quotidiennement violé par l'armée israélienne qui n'a pas encore achevé son retrait d'une partie du sud du Liban. Emmanuel Macron veut aussi apporter son soutien à la formation dans les meilleurs délais d'un gouvernement. Il va tenter de rassurer les partis chiites qui hésitent à participer à la reconstitution du pouvoir exécutif pour protester contre ce qu'ils appellent une embuscade politique qui a porté Nawaf Salam au pouvoir contre leur gré. Pour réussir, le nouveau gouvernement doit rassembler et doit mener les réformes essentielles au redressement du pays, selon Paris. Lors de cette visite d'une journée, Emmanuel Macron doit rencontrer les présidents de la République et du Parlement, le Premier ministre désigné et les représentants d'un large éventail de forces politiques libanaises. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En Israël, à présent, il doit se réunir ce matin, le cabinet de sécurité chargé de valider l'accord trouvé entre Israël et le Hamas pour une trêve à Gaza, des libérations d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. L'accord en 3 phases prévoit également un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, une augmentation de l'aide humanitaire. Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur dimanche. Au Cameroun, voilà 2 ans, jour pour jour qu'a eu lieu la disparition de l'animateur radio Martinez Zogo. La douleur de ses proches face à la lenteur de ce procès. Le présentateur vedette de la quotidienne très écoutée à Yaoundé était retrouvé 5 jours plus tard, son corps nu et supplicié, abandonné sur un terrain à l'extérieur de la capitale. Dans son émission, Martinez Zogo dénonçait régulièrement la petite et la grande corruption, invectivait les puissants sans jamais s'en prendre au président Biya. Sa mort a secoué tout le Cameroun. 2 ans plus tard, son corps est toujours actuellement à la morgue. 17 accusés sont devant la justice militaire, mais le procès en est encore à des questions de procédure. Flore Zogo, sœur aînée du défunt, parle d'une attente douloureuse et d'un sentiment d'impuissance.
Il y a 1 an, je ne pensais pas que à cette heure, à ce moment, on n'aurait pas de réponse, on n'aurait pas de solution. Tous les souvenirs remontent à la surface et franchement, c'est très dur. On est vraiment face à une impuissance qui n'a pas de nom. On ne peut rien faire, en fait. Si la procédure judiciaire traîne, moi, je pense que c'est quelque chose de prémédité. C'est vraiment politique. Et je ne sais même pas si ça vaut la peine de le faire, mais bon, s'il y a une demande, si je peux demander quelque chose, c'est que la justice fasse son travail et rapidement. Nous n'en pouvons plus, nous voulons connaître la vérité. Et comme ça se doit, et que dans quelques mois, qu'on sache qui sont les commanditaires, les meurtriers, et puis qu'on fasse notre deuil, qu'on fasse nos obsèques dans la dignité et l'honneur que que mérite notre frère.
Un propos recueilli par Amélie Tullet. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi la Corée du Sud. Le président suspendu Yoon Suk-yeol a de nouveau refusé ces dernières heures d'être interrogé par les enquêteurs. Premier chef d'État sud-coréen en exercice à être arrêté. Il avait plongé le pays dans une grave crise politique en déclarant brièvement la loi martiale. C'était début décembre, officiellement pour protéger le pays des forces communistes nord-coréennes et éliminer les éléments hostiles à l'État. Les enquêteurs demandent à l'instant une prolongation de 20 jours de sa détention. L'un des dirigeants du parti d'extrême droite allemand AfD sera lundi à Washington invité à l'investiture de Donald Trump. Voilà ce qu'indique le parti. Cette présidence va changer le monde de manière durable et l'Allemagne doit entretenir des relations pacifiques avec tous les pays, a déclaré Tino Chrupalla. Le gouvernement du chancelier social-démocrate Olaf Scholz sera lui représenté par l'ambassadeur allemand à Washington. Le parti conservateur CDU, favori des sondages en vue des élections de février, délèguera lui son responsable pour les questions de politique étrangère. Et justement, Friedrich Merz, le leader de la CDU allemande, qui bénéficie en ce moment d'un coup de pouce à 4 semaines maintenant des élections législatives, le parti conservateur européen PPE se réunit à Berlin. Nathalie Versieux.
10 chefs d'État et de gouvernement conservateurs se réunissent au siège de la CDU pendant 2 jours, auxquels il faut ajouter les partenaires conservateurs de coalition de 3 États supplémentaires, la présidente de la Commission européenne, la présidente du Parlement européen. En direction des électeurs allemands, le message est double. Merz parle d'égal à égal avec les gouvernants européens et la CDU prend les questions européennes très au sérieux, bien plus qu'Olaf Scholz, qui aurait surtout brillé par son absence à Bruxelles. Les conservateurs européens espèrent voir bientôt un des leurs gouverner la plus grosse économie de la zone euro, Friedrich Merz, le candidat qui promet de libérer l'Europe de son carcan bureaucratique. Un message de force aussi en direction de Washington, à l'heure où s'annonce une lutte autour des droits de douane avec l'administration Trump. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
À Los Angeles, à présent, les incendies commencent peu à peu à être maîtrisés, mais pour les sinistrés, reprendre le fil de leur vie relève du défi. Notre envoyé spécial à Los Angeles, Harim Lipold, a rencontré Fred Daniels, afro-américain. Il est né dans le quartier modeste d'Altadena et sa maison familiale a été complètement détruite. Écoutez.
Ma famille a été évacuée par précaution. On s'est installé chez ma grand-mère qui a 84 ans. On s'occupait d'elle et on s'est dit qu'on devait la faire sortir avant que l'évacuation ne soit officiellement ordonnée par les autorités. Vous savez, ma grand-mère a survécu à l'ouragan Katrina en 2005, aux inondations de Houston en 2017, et maintenant, sa maison a brûlé à cause des incendies. Elle en a traversé des épreuves. Moi, parmi toutes les choses que j'ai dû laisser dans la maison, je n'arrête pas de penser aux photos, ces photos papier. C'est ce qui reste. Vous voyez, et je n'en ai plus. Ces photos de vos aînés, ces photos de vos enfants qui étaient accrochés au mur, elles ont disparu. La seule chose qu'il me reste, ce sont les photos dans mon téléphone. Mais je vais faire partie de l'effort collectif avec tous les voisins du quartier pour reconstruire. Je n'ai pas envie de vivre ailleurs, alors on va y aller étape par étape pour voir comment on peut y arriver.
Un témoignage au micro de notre envoyé spécial Harim Lipold, enfin géant du cinéma américain, à l'influence immense David Lynch, réalisateur d'Elephant Man, Mulholland Drive et de la série culte Twin Peaks, est mort hier à l'âge de 78 ans sur son œuvre. Écoutez Thierry Jousse, ex-rédacteur en chef des Cahiers du cinéma.
Souvent, ces films sont construits sur une espèce de double niveau, c'est-à-dire qu'il y a un monde, c'est très net dans Blue Velvet déjà, qui est son 4e long métrage, mais qu'on peut considérer comme une sorte de nouveau premier film pour lui, parce que c'est comme s'il redémarrait une carrière à ce moment-là, et que c'est à ce moment-là peut-être qu'il a vraiment inventé son monde. Et si vous voulez, dans Blue Velvet, vous avez le monde du jour et le monde de la nuit, qui communique très peu, qui communique à travers le personnage donc, principal, qui est joué par Kyle MacLachlan. Et c'est un peu, et donc, c'est comme s'il y avait un monde qui est celui qu'on connaît, et puis un monde inconnu dans lequel les personnages pénètrent. Et puis il y a cette dimension. Il y a de l'humour aussi hein, chez Lynch, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a du grotesque, il y a de l'humour. Ce n'est pas un cinéaste sinistre. Hein. C'est aussi quelqu'un qui a de l'humour, qui a travaillé sur des formes presque parodiques par moments. Donc c'est un monde très, très vaste qu'on va sûrement, avec lequel on ne va pas en finir là du tout, je pense.
Voilà, Thierry Joussex, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, 10h10 ici à Paris.